santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Nous sommes de plus en plus stressés, entre autres par le travail, mais pas seulement, aussi dans notre vie personnelle, famille, enfants, couple. Alors, quels sont les mécanismes physiologiques du stress? Quel est l'impact sur notre santé? Comment gérer ce stress? Et aussi, comment faire face à ces difficultés? Pour en parler, je reçois Éric Marlien, qui est kinésithérapeute et ostéopathe. Il est également diplômé en hypnose ericksonienne et il vient de publier La gestion du stress. C'est aux éditions des Iris. Également avec moi aujourd'hui, Béatrice Millette, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute. Elle vient de publier Petit atelier du mieux-être au travail pour salariés de tous horizons. C'est aux éditions First Psycho. Alors, si vous souhaitez participer, apporter votre témoignage, poser des questions, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Cette émission, nous aurons également au téléphone Marie-Thérèse Neuy, qui est sociologue, maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste notamment de la gestion et de la prévention des crises. Et nous terminerons en parlant d'une décision récente de la Cour de cassation en France qui a reconnu un préjudice spécifique d'anxiété à des travailleurs victimes de l'amiante. Éric Marlien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios de France Bleu Provence, à Aix-en-Provence, et Béatrice Millette est sur la route, elle est en train d'arriver. Éric Marlien, comment peut-on finalement définir le stress? On met beaucoup de choses sous ce mot-là.
Absolument.
Et un peu tout et n'importe quoi peut-être d'ailleurs.
On croit souvent que le stress est uniquement équivalent à un événement, une situation difficile, alors qu'en réalité c'est un complexe qui est fait de l'événement et de la façon dont on y réagit ou dont on s'y adapte. Je prends un exemple, si vous devez sauter d'un mur de 2 mètres, ça constitue l'événement. Maintenant, si vous sautez d'une façon volontaire, avec envie, avec plaisir, vous allez mobiliser des ressources dans votre organisme pour pouvoir le faire le mieux possible. Vous allez calculer parfaitement la hauteur et les mécanismes musculaires, enfin ça va se faire inconsciemment bien sûr, qui vont être utiles pour pouvoir se réceptionner facilement et en douceur. Si maintenant vous avez peur, vous refusez de sauter, et qui plus est si on vous pousse, votre corps va être dans un état de raideur et de tension qui fait que vous risquez de vous faire mal en sautant. Voilà un petit peu pour montrer que c'est...
Comment on peut définir en gros le stress.
La façon dont on s'y adapte et qu'on y réagit, qui est le facteur peut-être le plus important. Mis à part certaines situations qui ont vraiment un potentiel extrêmement violent et pour lesquelles nos capacités d'adaptation peuvent être dépassées. Si on poursuit l'exemple, sauter de 30 mètres, presque personne ne va pouvoir y survivre. Mais dans la plupart du cas, ce qui est important, le moment où l'on peut en fait intervenir, c'est plus sur notre façon d'y réagir que sur l'événement. Parce que dans la plupart du temps, les événements, nous sommes obligés plus ou moins de les subir. Parfois, on peut les adapter. Mais nous sommes tous obligés de travailler, d'être en relation avec des gens. Et puis, d'autre part, souvent, les gens souffrent d'événements qui se sont situés dans le passé, qui sont terminés, sur lesquels on ne peut plus rien faire. Donc là où réside notre pouvoir de liberté, c'est dans notre façon d'essayer de nous en sortir,
de réagir. Et vous allez nous apprendre justement à nous adapter et à réagir. Béatrice Millette, bonjour. Vous venez d'arriver. Merci, oui. Merci de nous rejoindre. On était donc en train d'essayer de définir ce stress. Moi, j'aurais envie de vous demander, est-ce qu'effectivement on est de plus en plus stressé? Est-ce qu'on est dans une société qui nous stresse plus qu'avant?
Je crois que oui, puis en plus on en parle tellement que quelque part on n'a pas le droit de pas être stressé. Oui, c'est stressant d'en parler, on ne peut pas ne pas être stressé, il faut toujours... Ça, je crois que ça va de pair avec la perfection, il faut toujours s'améliorer, je suis mal placée pour dire ça, mais il faut aller voir les psys, les coachs, les machins, enfin on ne peut pas simplement rester comme on est.
Donc objectivement on est dans une société qui nous stresse de plus en plus, réellement. Éric Marlien, dans votre ouvrage, La gestion du stress, vous décrivez un peu ce qui se passe au niveau de notre corps au moment de ce stress. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer de façon assez simple? Parce que c'est un phénomène un peu complexe, en fait.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que nous avons un système nerveux, enfin, nous avons plusieurs systèmes nerveux, dont l'un qui s'appelle le système neurovégétatif, qui gère tous les fonctionnements automatiques autonomes du corps. Ils sont divisés en deux parties. Nous avons un système parasympathique, qui est le système qui permet de reconstituer nos stocks énergétiques, de réparer notre organisme, les tissus, les cellules, et qui est équivalent au calme, à la détente, et qui fonctionne surtout la nuit. À côté de cela, nous avons le système orthosympathique, qui est un système de travail qui nous permet de faire face, d'agir sur le monde. Ce système donc, va mobiliser notre rythme cardiaque, va l'accélérer, va augmenter un peu notre pression artérielle, va amener plus de sucre dans le sang à destination de notre cerveau et de nos muscles. C'est ce système-là qui est la plupart du temps mis en action dans le stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système qui s'est développé avec l'évolution des espèces et puis des premiers hommes face à des situations particulièrement difficiles. Il fallait survivre dans des milieux hostiles, il fallait trouver sa nourriture, il fallait maintenir ou conquérir du territoire. Donc c'était un système qui permettait de mobiliser beaucoup d'énergie. En deux mots, c'était en fait fuir ou se battre, vous voyez. Donc il fallait avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie. À l'heure actuelle, beaucoup de stress sont de nature psycho-émotionnelle et ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Cette énergie qui est libérée, qui est faite pour activer notre système musculaire en particulier, reste finalement sous-utilisée et va commencer à entraîner des réactions très négatives dans l'organisme. Les premières et les plus simples que l'on constate, notamment quand on est ostéopathe tous les jours, c'est le degré de tension musculaire.
Et avec le mal de dos à la clé, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, par exemple. Alors, ensuite de ça, on arrive à des réactions de plus en plus préjudiciables qui vont entraîner, par exemple, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les infarctus, toutes sortes de maladies.
Le rythme cardiaque change au moment du stress, justement.
Alors, au moment du stress, parce qu'il y a une réaction, si vous voulez, immédiate, qu'on appelle la phase d'alarme, qui est dominée par les hormones médulo-surrénaliennes, c'est l'adrénaline. Donc là, il y a une augmentation immédiate de notre rythme cardiaque, je crois que tout le monde a connu ça. Le cœur tape fort et plus vite. Ensuite, ça, c'est les réactions rapides, qui mobilisent aussi notre système orthosympathique. Lorsque la situation stressante se prolonge, on va avoir une mobilisation, on va avoir une rentrée en phase de résistance, c'est-à-dire que l'organisme va se préparer à résister pour continuer à s'adapter à des situations difficiles. Là, ce sont plus les niveaux hormonaux qui sont mis en jeu. Et ensuite, de ça, on a deux solutions. Soit la situation s'arrange, alors à ce moment-là, le système parasympathique
tout
va nous
dans
réparer, bah oui, va reconstituer tous nos stocks. Soit la situation perdure, où on a des difficultés pour pouvoir y faire face, et à ce moment-là, il va y avoir un épuisement. L'organisme va peu à peu s'épuiser, et c'est là qu'on assiste à toutes les nombreuses maladies de civilisation liées à cette fatigue de l'organisme.
Et c'est là que le stress peut rendre malade. Nadia est chargée de clientèle internationale dans un grand magasin, c'est-à-dire en fait qu'elle s'occupe de clients fortunés qui viennent faire leurs courses à tout moment et veulent être servis rapidement et bien. Alors elle a subi des pressions quotidiennes dans son travail, a même demandé un soutien médical. Elle nous raconte tout cela au micro d'Elise Kunzelmann.
On n'a pas le droit à l'erreur avec ces clients-là parce qu'on a des gros portefeuilles à gérer. Donc on a contact avec les vendeurs, avec les fournisseurs, avec les livreurs, les chauffeurs, les emballeurs. Donc il faut tout contrôler pour éviter l'erreur. Chose que ça provoque beaucoup de stress et des fatigues. Donc ça répercute quand même sur nos santé. Et pour les gérer, ben, des fois, on prie au Seigneur. Je lis la Bible, c'est ça qui va me décompresser un petit peu. C'est mon souffle de vie.
Et comment vous ressentez justement la pression de votre chef?
Elle est très exigeante vers nous. Que je trouve que ça, c'est une injustice qu'on nous soit là depuis les matins à fournir des travaux parfaits, sans erreur, et qu'elle arrive l'après-midi tranquillement. Et c'est les reproches pourquoi vous n'avez pas fait les rapports d'activité, les fiches. Vous voyez, vous n'êtes pas payé parce que vous n'avez pas fait votre travail, mais on n'a pas eu le temps vraiment de faire les bureaux et tous les travaux que ça nous implique dans le magasin. Nous, on est payés à la commission. Donc, par exemple, vous voyez, nous sommes au mois de mai et on vient de toucher la commission de février et mars. Et là, elle était en train de nous demander la commission du mois d'avril. Bien sûr, en priorité, c'est le client, les services des clients qui va passer avant le travail du bureau. Il manque beaucoup de personnel. Par exemple, vous avez vendu pour 40 000 euros. Il faut descendre à l'emballage pour contrôler toute la marchandise. Et après, il faut faire tout ce qu'on a comme papier à faire dans les bureaux.
Et donc, en général, vous travaillez combien d'heures par jour?
Je vais commencer à 10h30 et on va finir à 10h10. Non stop de face à manger. On aurait souhaité d'avoir un endroit où on puisse manger tranquille un peu, mais qu'on puisse faire une sieste, pourquoi pas. et on pourra être plus efficace pour avoir du courage pour continuer la journée. Les matins, quand j'arrive, je prie avant de rentrer dans les bureaux en souhaitant que tout ça se passe bien. Et voilà, tout de suite, le téléphone commence à sonner. On n'a même pas eu le temps de lever son manteau. On arrive sur le terrain avec un grand sourire pour accueillir les clients et faire les achats avec les clients et essayer de faire le mieux possible.
Est-ce qu'il y a des répercussions de ce stress dans votre vie privée ou familiale?
Au mois de décembre, oui. Au mois de décembre, j'ai eu presque une dépression. Donc, j'étais suivie par les médecins, antidépresseurs et tout, parce que j'ai eu un gros dossier dû à les choses qui se sont passées avec la responsable. Et je suis allée voir différents médecins. Pour le harcèlement au travail, ça répercute sur votre santé, parce que j'ai dormi mal et je me sentais mal. J'ai perdu du poids et c'était très dur à vivre tous les jours.
Maintenant, ça va mieux?
Maintenant, ça va mieux parce que d'après ça, la personne s'est calmée parce que je suis allée voir des responsables plus hauts, la DRH, etc. Donc, je pense qu'ils ont fait les nécessaires. Moi, personnellement, l'ambiance est beaucoup mieux. Ouais.
Priorité santé, Claire Hédon.
Béatrice Millettre, vous êtes psychologue, psychothérapeute. J'imagine que l'histoire de Nadia, vous l'entendez souvent en consultation.
Je crois qu'on l'entend très souvent, beaucoup trop souvent à mon goût, mais c'est la réalité. Oui,
et qu'est-ce que vous répondez alors à ces patients qui viennent vous voir?
Alors déjà, je crois qu'effectivement, on leur répond qu'il y a des choses qu'ils peuvent changer, d'autres pas. Je crois que c'est un des mots du siècle, effectivement, où les entreprises en demandent de plus en plus, il n'y a pas assez de personnel, ils travaillent de trop. Enfin bon, je crois qu'individuellement, on ne peut pas trop y changer grand-chose, mais avec des petits moyens, effectivement, déjà d'aller en parler à son chef ou passer au-dessus à la DRH pour essayer de trouver des solutions, ça c'est indispensable. Et la plupart des salariés ne le font pas. Ils se disent oh non, ça sert à rien, si je vais dire quelque chose, on va me virer. Et ça, c'est pas la réalité. Alors souvent, ils se disent aussi mon chef le sait bien. Il le voit parce qu'il est chef. Mais c'est pas parce qu'il est chef, justement, qu'il va voir les choses, parce qu'il a autre chose à faire. Et donc d'aller en discuter, je crois que c'est la première des solutions.
Premier conseil,
oui, c'est... premier conseil, effectivement. Alors c'est pas facile, les gens ont peur, etc. Mais donc déjà, on essaye de dédramatiser leur peur et de faire en sorte qu'ils puissent le faire.
Vous avez un chapitre dans votre ouvrage qui est justement consacré à la surcharge de travail, et vous dites d'ailleurs comment dire non.
Oui, il faut aussi arriver à dire non. Alors moi j'aime bien, c'est pas dire non franc et massif directement, mais pas tout de suite. On dit oui, mais pour demain, pour après-demain, pour dans un quart d'heure. Et alors pendant ce temps-là, l'interlocuteur qui vous demande le travail, il essaye de le faire tout seul parce que c'est urgent et que lui, il se fait taper sur les doigts s'il ne le fait pas. Donc déjà, on arrive comme ça à décaler et à enlever beaucoup de pression.
Autre conseil à donner ?
Il faut essayer de faire des micro-pauses aussi. Moi, je dis, il faut commencer par l'idée de la pause. L'idée de la pause, c'est déjà, on s'assied la fesse sur un accoudoir, mais en ayant conscience qu'on s'arrête une seconde et demie, pour éviter d'être en surpression en permanence.
Éric Marlien, vous, dans vos conseils, vous dites qu'il faut qu'on respire mieux. C'est ça,
oui,
non ?
Oui, ça fait partie des conseils que je peux donner. Parce que la respiration, c'est un des mécanismes fondamentaux pour notre vie. Bien sûr, elle assure le renouvellement en oxygène et puis l'évacuation du gaz carbonique. Mais elle a bien d'autres fonctions. Elle va avoir un effet général sur tout l'organisme de vitalisation. Elle va, par le mouvement incessant du diaphragme, qui va procurer un massage de tous nos organes, entraîner un meilleur fonctionnement de ceux-ci, améliorer notre circulation veineuse, lymphatique en particulier. Donc, en plus de ça, beaucoup de stress se manifeste chez beaucoup de gens par des tensions aussi vers la région du plexus solaire qui est juste sous le diaphragme. Le fait de savoir respirer permet d'évacuer et de prendre un certain recul, d'abord de retrouver un état de bien-être intérieur qui nous permet d'avoir des émotions un peu plus faciles à gérer et puis un état de clarté mentale plus facile. Donc c'est un petit peu la base de tous les exercices, je n'ai rien inventé. Hein. On le retrouve aussi dans
On en entend souvent parler, et vous nous expliquerez en détail d'ailleurs comment respirer. On a Victor qui nous appelle de Ouagadougou, Burkina Faso. Victor, bonjour.
Bonjour Claire.
Nous vous écoutons.
Bonjour, moi je suis à Ouagadougou actuellement. J'ai perdu mon emploi depuis 2006. Bon, actuellement, j'ai fait des contrats. Mais en 2006, quand j'ai perdu mon emploi, dans les premiers mois, effectivement, j'avais du mal à m'adapter à ma nouvelle situation de sans-emploi. Donc, je n'avais plus les revenus de façon régulière et permanente. Et j'avais des insomnies la nuit, je n'arrivais pas à bien dormir. J'avais des crises d'ulcères à certains moments. le fait d'être angoissé et de croire, de penser que demain, bon, demain, je ne pourrai pas être en mesure de satisfaire aux besoins de la famille et aux sollicitations des parents et autres frères. Donc, ça a été des moments très difficiles.
Et aujourd'hui, bon, ça va comment? Et aujourd'hui, oui. Victor, ça va comment?
Aujourd'hui, bon, ça va mieux. Ça va mieux parce que, bon, je me suis adapté à la nouvelle situation, même si elle n'est pas permanente. Mais c'est des contrats quand même assez réguliers. Donc, ça va nettement mieux. Les crises ont diminué. Mais vers la fin des contrats, bon, les crises reviennent parce qu'on n'est jamais sûr
qu'il y aura un autre contrat. Oui, on imagine bien. Et le stress revient quand vous arrivez en fin de contrat et que vous ne savez pas si ça va être renouvelé. Béatrice Millette, je veux bien que vous essayiez de répondre à Victor. Effectivement, il y a le stress du travail, puis il y a le stress de la perte de l'emploi.
Oui, alors ça, toutes les personnes au chômage vous le disent, ils sont stressés, ils passent leur temps à essayer d'envoyer des lettres de candidature, de faire des CV, des choses comme ça. Effectivement, on ne peut pas faire ça non plus 8 heures par jour pendant des mois parce que le CV, il est fait, et puis les offres d'emploi, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça tourne à l'obsession, ce qui est légitime, bien sûr, mais donc c'est stressant. C'est stressant parce que de ce fait, et puis c'est stressant par la peur de ne pas retrouver d'emploi. Donc ça, bien sûr. Moi, ce que je dis toujours, et je crois que pour moi c'est une grande vérité, c'est qu'on retombe tous, alors plus ou moins bien, plus ou moins difficilement, sur nos pattes. On a tous, je crois, cette capacité à faire face d'une manière ou d'une autre. Hein. Je ne dis pas que c'est satisfaisant, mais je dis qu'il faut en prendre conscience. Et que même, effectivement, il y a un contrat, on ne sait pas s'il y aura un suivant. Au lieu d'angoisser sur le prochain, il faut se retourner sur le passé, se dire mais à chaque fois j'ai réussi à en retrouver un, j'ai réussi à chaque fois à m'en sortir, donc ça continuera comme ça.
Essayer de se rassurer comme
oui,
ça.
Oui, et c'est même pas de se rassurer, c'est pour moi la réalité. Si on se retourne quand on a 100 ans sur notre vie, à part effectivement des exceptions, mais bon an, mal an, on fait face et on y arrive.
Éric Marlien, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Victor?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais même si parfois on se sent complètement victime des événements, il y a une chose qui n'est pas pertinente et qui ne fonctionne jamais, c'est de rester passif. J'ai envie de citer l'adage de Marc Odell qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence ». On sait que ce qui est le plus délétère sur notre santé, c'est quand on est passif et quand on se sent impuissant face à une situation. Ça a été prouvé par de nombreuses expériences. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de retrouver dans toute situation, même si elle nous paraît dramatique, quelle est notre part de responsabilité? Où est-ce qu'on peut retrouver un petit espace de liberté et pouvoir faire quelque chose?
Et alors concrètement, par exemple, pour Victor, c'est justement de continuer, bon là en ce moment il a un travail, de continuer à chercher du travail, même si c'est de courte durée.
Il faut qu'il observe sa problématique en essayant de voir qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est possible pour lui et qu'est-ce qui ne lui appartient pas, sur lequel il peut absolument avoir aucune emprise. Et se concentrer ses idées, son énergie sur la marge de manœuvre qui peut lui appartenir. Donc, sinon, on se perd, quoi.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'impact du stress, par exemple, sur des douleurs musculaires ou des choses comme ça, et manifestement, a aussi un grand impact sur le sommeil. C'est ce que nous disait Victor, du mal à dormir.
Ah oui, absolument. C'est de toute façon parce que, comme le système orthosympathique reste en hyperactivité, et que c'est un système qui doit diminuer son action au profit du parasympathique la nuit pour assurer un bon sommeil, forcément, c'est déjà une des bases de perturbation, quoi, de troubles du sommeil.
Merci beaucoup, Victor, pour votre question. Éric Marlien et Béatrice Millette, on se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler du stress. Éric Marlien, vous reviendrez sur cette question de la respiration et vous nous apprendrez justement à bien respirer pour se relaxer, entre autres. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler pour poser des questions au 33 1 56 40 18 22.